Alors, on attache nos ceintures. Vous êtes prêts pour le départ? Parce qu'on va voir beaucoup de matériel. On pourrait passer une semaine, je pense, sur chacun des sujets. Mais on va faire comme un survol. On va essayer de voir, à partir des évangiles, quelle place ont occupé les miracles. Et je vous propose trois façons de regarder le sujet. Les miracles de Jésus en rapport avec la foi, en rapport avec la révélation et en rapport avec le cœur de Dieu. Je pense que cette semaine, on va pouvoir faire les deux premiers, la foi et la révélation. Et vous allez devoir attendre à l'autre semaine pour avoir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et la semaine prochaine, on va pratiquer l'onction aussi. Alors, le but de ça, c'est vraiment de nous préparer avoir un bon fondement au sujet des miracles, leur place aujourd'hui, puis quelles sont nos attentes, les attentes qu'on devrait avoir par rapport à ça. Alors, je vous partage quelque chose. J'ai dans ma bibliothèque, j'ai deux sections de largeur là, à peu près, sur le sujet. Alors, c'est quelque chose qui m'a préoccupé beaucoup à travers le ministère. Et je vous partage ce que je comprends des Écritures et mes convictions par rapport à ça. Alors, je vous les impose pas. C'est vraiment pour nous aider à avoir un bon portrait de la place que devraient occuper les miracles, les signes et les prodiges dans notre vie. On commence avec manquait de conviction un peu. Un texte que je trouve fondamental dans Matthieu 13, lorsque Jésus a achevé ses paraboles, il partit de là, il se rendit dans sa patrie, Nazareth, où il avait été élevé, et se mit à enseigner. Bon, ça coupe l'inspiration. Dans leur synagogue. Alors, il avait été élevé dans cette synagogue-là. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Alors, ma première constatation, c'est qu'il y a un prérequis essentiel à ce que les miracles se produisent. Et c'est quoi? La foi. Hein? Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa propre ville parce que il y a un climat d'incrédulité qui était dans la ville. Et Matthieu, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? Parce que vous n'avez que peu de foi. Hein? Vous avez une petite foi. Et Jésus, qui dit que si nous avions de la foi gros comme un grain de sénévé qu'on peut mettre sur le... on pourrait transporter une montagne et rien ne vous serait impossible. Alors, je pense que s'il y a des miracles, c'est parce qu'il y a de la foi. Et s'il n'y a pas de miracles... Bonne question. Dans Matthieu, il y a deux aveugles qui suivent et qui s'attendent à ce que Jésus les guérisse. Et le Seigneur dit, « Croyez-vous que je peux faire ça? » Et il dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Alors, encore là, un lien très étroit entre le miracle qui se produit et la foi qui est là. Alors, comme à Nazareth, il y a une foi ambiante, une foi dans la masse, dans la société, comme à Nazareth, qui influe sur la quantité de miracles. Et au Québec, dans notre monde occidental, le miracle est pas mal disparu, n'est-ce pas? Je ne sais pas ailleurs, mais j'entends des choses ailleurs. Mais spécifiquement, on peut parler de... On vit dans un âge post-chrétien, post-moderne. Et la religion, Jésus, les miracles, tout ça, c'est vraiment du passé. C'est du folklore. Hein? On s'attend pas à ce qu'il y ait une intervention divine, qu'il y ait une manifestation comme ça dans notre société. Il y a trois grands courants, on pourrait dire, des fleuves qui emporte, qui nous emporte, qui emporte notre société loin du miracle, loin du miraculeux. Et le premier, c'est le sécularisme, qui est bien dans la mode, hein, la laïcité, on en entend parler tous les jours. Alors, si, pour ceux qui n'étaient pas au Québec, autrefois, la croyance était hors de l'Église catholique, point de salut. Et puis est arrivée la Révolution tranquille, dans les années 60, et là, toutes les religions, ça était bonnes. Il y avait une ouverture sur le reste des autres croyances et du monde. Et je pense qu'on s'en va de plus en plus vers toutes les religions sont mauvaises. On s'en va vers ça. Hein? C'est dépassé, c'est rétrograde, il faut aller plus loin que ça. Et retourner, c'est de l'obscurantisme. Et je pense que l'islam est... surtout les radicaux et ce genre de foi-là nuit énormément, ou contribue énormément à ça. Ce qui c'est pas mal au départ, parce que Jésus a été le premier à dire « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Alors, c'est pas mauvais en soi. Mais c'est rendu vraiment à une autre extrême. Et le problème, c'est que on veut pas rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. On veut rien savoir de Dieu dans notre société, n'est-ce pas? C'est l'État qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est plus la religion, ce n'est plus un Dieu transcendant qui nous dit quoi faire. On met ça de côté et c'est dans les milieux démocratiques, c'est ce que l'État décide ou ce que la majorité pense qui est bien et qui est mal. Alors, on veut pas de Dieu qui nous impose une loi morale. Un vieux piège, je pense que ça date du Jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux, puis vous allez décider qu'est-ce qui est bien, qui est mal. C'est pas nouveau. On met Dieu de côté. Puis on décide qu'est-ce qui est bien pour nous. Alors, ça c'est le côté négatif du sécularisme. J'ai trouvé des citations sur Internet qui parlent de l'émancipation des représentants. On doit s'émanciper des représentations collectives face aux faits religieux. Alors, on doit s'émanciper par rapport à ces vieilles croyances-là, cette vieille morale judéo-chrétienne. Ça nous dit un petit peu, ça décrit un petit peu ce courant-là, le sécularisme, la laïcité, qui est devenue comme une religion opposée à la foi. Un autre mouvement, la doctrine du rationalisme. La doctrine qui pose la raison logique comme seule source possible de toute connaissance réelle. Le rationalisme s'entend de toute doctrine qui attribue à la seule raison humaine la capacité de connaître et d'établir la vérité. Alors, la seule source de connaissance, la seule source pour établir la vérité, c'est l'être humain. Toute participation ou explication naturelle, logique ou rationnelle, ça n'a aucune place, aucune possibilité que le miraculeux puisse expliquer, être une explication valable aux miracles, aux signes, aux prodiges. Alors ça, c'est répandu aussi, c'est un autre courant. Et il y a un troisième, il y a beaucoup d'ismes, et le troisième, c'est le matérialisme, dans le sens que rien n'existe en dehors de la matière. Tu es poussière et tu retournes à la poussière, et quand tu retournes à la poussière, c'est fini. Tout le monde spirituel, le monde n'existe pas en dehors de la matière. Hein? S'il y a des miracles, la cause n'est certainement pas Dieu. C'est juste qu'on connaît pas la cause. Hein? Lorsqu'on est devant un phénomène miraculeux, on va l'expliquer d'une façon rationnelle ou bien jamais on va admettre la possibilité que ce soit Dieu. La matière construit toute réalité, il s'oppose à tout courant pour lequel une transcendance, c'est-à-dire Dieu domine la matière. Il y a rejet du commencement ou d'une cause première et donc d'une transcendance ou de l'insensible, quelque chose qui n'est pas vérifié par les sens, soit de l'âme, de l'esprit, de la vie éternelle ou d'un Dieu qui gouverne les éléments dans la nature. Alors, ça, c'est juste des citations qui... Ça, c'est les courants dans lesquels on nage. On nage, notre société nage là-dedans. On est emporté par ces courants-là. Et le pauvre chrétien se débat là-dedans à contre-courant. Et quand on parle de miracles, de signes, de prodiges, c'est bon pour toi, mais ça n'a aucune valeur, ça n'a pas de puissance. Ailleurs dans le monde, alors, il y a des frères et sœurs qui pourraient m'en parler, ils pourraient confirmer. C'est un petit peu différent. Lorsqu'on sort du monde occidental, là, le monde spirituel, au contraire, c'est omniprésent. Le monde spirituel est partout. Il est envahissant. Le monde est peuplé d'esprits, le monde est peuplé de démons, d'ancêtres, de fantômes, d'idoles, qui habitent des arbres, qui habitent des rivières, qui habitent des villages, qui habitent des pierres, qui habitent des statues. Et ils sont pas à part, ils cohabitent avec les humains. Ce monde spirituel-là est à côté, et même pas à côté, il habite avec les humains. Et à travers la magie, la sorcellerie, les contacts avec l'au-delà, le monde occulte, la superstition... il y a tout un courant là qui est, je dirais, l'opposé de ce que nous, on a dans notre société. Hein? Les frères qui viennent d'ailleurs, est-ce que ça ressemble à ça? Oui, Jean confirme. On n'a pas de difficulté à croire en un monde spirituel. Hein? Même nos ouvriers, nos missionnaires internationaux, hein? Sont désarmés lorsqu'ils arrivent sur le champ missionnaire parce que là, ils doivent prouver que leur Dieu est plus puissant que toutes les fausses croyances qui sont là. Hein? On va invoquer des démons, pas des démons, mais des esprits qui, on pense pas que ce soit des démons, mais on va invoquer ou on va repousser ces démons-là par toutes sortes de superstitions. Mais ça fait partie de la réalité, ça fait partie de la vie. J'étais abonné à Gospel for Asia et il raconte là, je reçois ça peut-être à chaque semaine, une intervention de Dieu dans ces milieux-là qui a fait qu'un village a adopté Jésus au lieu d'adopter leur idole. Alors... Alors, le premier point, c'est ça. Je dirais que la possibilité de miracle ou l'éventualité qu'il va y avoir des miracles, c'est proportionnel à la foi. Il y a une relation entre le miracle qui se produit et la foi, je dirais, pas simplement individuelle. Mais la foi dans la société, la foi dans le village, comme dans Nazareth. Jésus n'a pas pu faire de miracle là, parce que il était... Oups. OK. Alors, ça, c'est un premier point, je pense que c'est pas difficile à prouver. Il y a une relation, en tout cas, étroite entre le miracle qui se produit et la foi, en réponse à la foi de la personne. Deuxième point. Les miracles sont en rapport avec la révélation, avec l'inspiration des Écritures. Jean 20, je pense que c'est un texte assez significatif. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » C'est bien. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, combien ici qui ont vu et qui n'ont pas vu et qui ont cru, hein? Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit, les miracles qui sont mentionnés dans les évangiles, afin que vous croyez. Vous qui n'avez pas vu, vous qui n'avez pas entendu, vous qui n'avez pas connu le Seigneur, ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, ceux qui n'étaient pas là, comme nous, on peut se fier aux miracles qui sont écrits dans les évangiles. On peut mettre notre foi dans cette chose-là, parce que ça a été authentifié par Dieu. Alors, ce que ça sous-entend, c'est que la présence de Jésus sur terre, dans les évangiles, a été accompagnée de signes, de prodiges et de miracles inégalés. Ça, pour moi, je pense que c'est vérifiable dans l'histoire. Il n'y a rien de semblable qui s'est produit que ce qui est raconté dans les évangiles. Imaginez, il guérissait quelques malades de temps en temps. Toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, il les guérit. Il guérit tous les malades, ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de moi. Jésus était en train d'accomplir la prophétie du Messie qui allait venir et qui allait guérir toutes nos maladies. Alors, Jésus, d'après moi, c'est dans une classe à part. C'était le Messie qui était annoncé. Et imaginez si on appliquait ça aujourd'hui. On va chercher, Réjean est là, on va chercher Jacques, on va chercher Jean-Guy, d'autres personnes qui seraient malades aujourd'hui. On les amène ici, dans la présence de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Guéris, ils repartent. Comme un œuf. Hein? Mais, bien sûr, c'est temporaire parce que, en quelque part, la maladie va reprendre, on va tous mourir. Mais, juste pour dire qu'il s'est passé, d'après moi, quelque chose de spécial à cette époque-là, c'est quelque chose d'historique dans la venue de Jésus. Et que c'est pas comparable à nulle part ailleurs. Alors, Jésus, c'était le Messie. Il était le Fils unique de Dieu. Il prétendait qu'il était le Fils unique de Dieu. Mais prouve-le. Hein? Et que sa parole, ce qu'il disait, c'était de Dieu, c'était la vérité. Il fallait que son témoignage soit appuyé par des signes, des prodiges, des miracles. Ça aussi, c'est pas difficile à... Hein? Dans Acte 2, à Pentecôte, Israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Alors, ces signes-là, ces miracles-là, avaient été pour authentifier que Jésus, ce qu'il disait, c'était la vérité, et ce qu'il était, le Fils de Dieu, c'était la vérité. J'ai pas fait l'inventaire, mais si on prenait toutes les guérisons dans les évangiles et qu'on reliait ça avec l'authentification de Jésus comme Messie et de sa parole, je pense que ça serait un très fort pourcentage. Une grande partie de ces signes, miracles et prodiges, on va voir qu'il y avait d'autres raisons, mais c'était là. Ces choses-là accompagnaient la personne de Jésus. Rapidement, à Cana, on se souvient de Cana? Qu'est-ce qui s'est passé à Cana? Il a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Cet homme-là, ce qu'il dit, est appuyé par le fait qu'il est au-dessus de la nature. La même chose quand il marche sur les eaux. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prouve qu'il est au-dessus de la nature. Hein? La même chose quand il multiplie les pains. Demain, à la banque alimentaire, il va y avoir une multiplication des pains. Il va y avoir du poisson puis du pain pour tout le monde. Fantastique. Alors, il y avait une controverse parce que les pharisiens ne demandaient pas mieux que de croire ces miracles-là. Mais croire aux miracles que Jésus faisait, c'était quoi? C'était de croire qu'il était le Fils de Dieu. Puis ça, il n'était pas capable. Il n'était pas capable de croire en la divinité de Jésus. Alors, il fallait qu'il explique par tous les moyens que ces miracles-là n'étaient pas de Dieu ou bien que ce n'étaient pas des vrais miracles. On voit ça presque dans toutes les... Il dit, en effet, comme le Père ressuscite des morts, il les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qu'il veut. Et il se prend pour Dieu, là. Hein? C'est assez fort comme déclaration. Il fallait qu'il prouve. Et en ressuscitant Lazare, il le prouvait. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il parle de la résurrection de Lazare. Oui, il y avait cette compassion-là pour Lazare, mais Jésus devait prouver qu'il était plus fort que la mort. Il était plus fort que toutes les conséquences du péché, qui est la maladie. Il était plus fort que toutes les conséquences de la maladie, qui est la mort. Jésus avait ce défi-là. Qui peut pardonner les péchés, encore là? Les pharisiens, l'opposition... Il disait qu'il blasphème, il se prend pour Dieu, parce qu'il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, puis va dans ta maison. Alors, le gars se lève. Voici la preuve que Jésus est Dieu, parce qu'il a le pouvoir sur la maladie, sur la cause de la maladie qui est le péché, et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et toute la liste. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et l'autre est intéressante dans Jean 6. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. Bénéfice personnel, hein? Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Dieu, car il n'observe pas le sabbat, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dire, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Alors, il y a, ça c'est juste l'évangile de Jean, mais je pense que Jean avait une mission spéciale de prouver que Jésus était vraiment la parole, la vérité, le Fils de Dieu. Alors, vous me suivez toujours? Ce qu'on pourrait mettre comme corollaire aussi, comme les miracles sont en rapport avec la venue de Jésus-Christ, on pourrait dire que les miracles ne produisent pas la foi. D'accord? Vous voyez ce qu'on a lu? C'est pas parce que Jésus faisait des miracles que ça produisait la foi. Ce que ça faisait, ça révélait le cœur. Ça révélait la foi qui était là ou qui était pas là. Ça confirmait la foi ou l'incrédulité des personnes. Exactement comme. OK. Paul dit aux Corinthiens, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Jésus a fait des miracles et ça a simplement révélé leur cœur, qu'il n'y avait pas la foi. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Alors, c'était le climat, hein, et ce rapport-là qu'il y a entre les miracles et l'authentification de la divinité, que Jésus était le Messie, que Jésus était le Sauveur, que Jésus était Dieu et que sa parole était authentique. Ça va? On revient au texte de départ. Ces choses, tout cela, ça a été écrit afin que vous croyiez. Et ça, c'est écrit pour nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard. C'est ce que Jean a relevé. Ça a été écrit, ça a été mis sur papier. Et ça, c'est la preuve que nous pouvons croire en Jésus-Christ. Et je dirais que ça, c'est dans une classe à part. Les autres miracles qui peuvent et qui sûrement se produisent n'ont pas cette autorité-là. Ils ne devraient pas avoir cette autorité-là. Ou la personne qui fait ce miracle-là ne devrait pas avoir l'autorité que Jésus avait. Allez, et il y a des avertissements. Je pense que je suis là. Non? Non. OK. Ça va être plus tard. Alors, ce qui était vrai pour Jésus est vrai aussi pour les apôtres. Je pense que les apôtres ont joué un rôle fondamental dans la naissance de l'Église, dans le fondement de l'Église et dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans les Écritures. Vous avez été édifiés justement sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus et la pierre d'angle. Si vous avez une montagne, vous avez une pierre d'angle et le fondement est appuyé sur cette pierre-là qui retient tout l'édifice et l'édifice est construit sur les pierres de fondement, si on peut dire, sur les 12 apôtres. Alors, ils ont joué un rôle important un jour, un rôle qui, d'après moi, n'est pas transmissible. Leur autorité n'est pas transmissible. Pierre n'a pas eu de successeur, et encore moins de successeur infaillible. Hébreu est très, très significatif aussi. Ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Il y avait un rôle de pierre angulaire. Ceux qui l'ont entendu, les témoins auditifs, on pourrait dire, et oculaires, mais ceux qui ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous et Dieu a authentifié, appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Alors, là aussi, il y a une classe à part. Ce qu'on appelle les 12 des fois dans la parole, le cercle restreint de ces apôtres-là. Il y avait d'autres apôtres, mais ce cercle-là a joué un rôle de fondamental et unique, d'après moi, dans l'histoire de l'Église, qui ne peut pas non plus être répété. Facile à prouver aussi. Survol des actes rapides, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage. Beaucoup de signes et de prodiges par les mains des apôtres dans Actes 5. Le Seigneur est celui-ci... Oui, le Seigneur confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Barnabas et Paul ont raconté les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux parmi les païens. On a cette ligne-là à travers les apôtres. Les signes distinctifs d'un apôtre, qu'est-ce qui fait qu'un apôtre est un apôtre? Entre autres, il y a d'autres textes aussi. Un autre, c'est d'être témoin de Jésus. Mais les signes, les prodiges, les miracles sont des signes distinctifs des apôtres. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a une place à part pour moi? Pourquoi est-ce que les apôtres ont une place à part pour moi? Parce que je pense que ils prenaient, ils occupaient la place à cette époque-là de l'inspiration orale. Dieu parle à son peuple à travers des personnes et ces paroles-là sont infaillibles. nous ont donné la parole de Dieu. Et une fois qu'on a eu la parole de Dieu inspirée par ces personnes-là, le Nouveau Testament, par exemple, ces phénomènes-là, les signes, les prodiges et miracles, sont allés en arrière-plan. Si on prend les évangiles, si on prend les actes des apôtres, j'ai relevé qu'il y a 77 fois mention des signes, des prodiges et des miracles dans le Nouveau Testament, et 60 fois, c'est dans les évangiles et les actes, 17 fois dans les épîtres, et là-dessus, il y en a la moitié qui réfère aux évangiles et aux actes. Donc, peut-être 10%, on arrive dans les épîtres, il y a 10% des signes et des miracles qui sont un sujet d'actualité, si on pourrait dire. Alors, tranquillement, pas vite, l'autorité que les apôtres avaient a été transférée à un nouveau système qui s'appelle les diacres et les anciens dans l'Église. Les apôtres ont joué ce rôle-là d'édifier, de fonder l'Église, d'inspirer les Écritures, et lorsque ça a été fait, ce sont les anciens et l'Église à qui on a délégué de conduire l'Église, mais il n'y a plus ce besoin d'authentifier la parole de Dieu qui a déjà été authentifiée. Autrement dit, je n'ai pas d'autre autorité aujourd'hui que la parole de Dieu. Si quelqu'un se présente avec des signes, des prodiges et des miracles, et il contredit la parole de Dieu, non. C'est notre seule autorité en matière de foi et de pratique, hein, sola scriptura, c'est la parole de Dieu. Il y a bien des textes qui nous avertissent. L'impie, l'apparition de cet impie se produira par la puissance de Satan avec une sorte de miracle, de signes, de prodiges mensongers. Hein? Il va s'élever des faux Christ, des faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire s'il était possible les élus. Et dans Matthieu, n'en avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Parce qu'on a fait beaucoup de miracles. Je leur déclarais, je ne vous ai jamais connu. Alors, les miracles, les signes et les prodiges avaient de cette envergure-là, de cette ampleur-là, avaient une mission spéciale dans les évangiles, dans les actes des apôtres, et plus on avance, plus ils prennent une place en arrière-plan. Alors là, je veux pas qu'on qu'on me tire des tomates tout de suite, attendez la semaine prochaine. Parce que ça veut pas dire qu'il n'y a plus de signes, de prodiges, de miracles. Ça veut pas dire ça du tout. Et c'est pas là que je m'en vais non plus. Il y a comme deux extrêmes à éviter. C'est de dire, non, c'est plus possible. Dieu ne fait plus de miracles, ne fait plus de signes et de prodiges. Et l'autre extrême, c'est de dire qu'il faut voir à tout prix des signes, des prodiges et des miracles pour prouver que nous sommes dans la foi. Je pense que c'est deux extrêmes. Et il y a une autre raison pour laquelle Dieu fait des miracles aujourd'hui, qu'on va voir la semaine prochaine, si on peut retenir notre souffle un petit peu. Est-ce que Dieu fait des miracles aujourd'hui? Est-ce que je peux vous raconter un miracle? Quand on est arrivé en Abitibi, on était tout seul, pas d'église, on partait à une église à Rouyn-Noranda, et puis Jonathan, notre troisième enfant, il avait 2 ou 3 mois à cette époque-là, et puis à un moment donné, une forte fièvre, il vomissait, Lise l'allaitait, puis il vomissait. Alors on s'est rendu à l'hôpital, et puis là, ils ont diagnostiqué que probablement c'était une méningite. Alors, là, ils ont dit, on va le garder. Lise a dit, je l'allaite. Puis à l'époque, tu n'as pas question de rester à l'hôpital pour allaiter. Alors, elle a réussi à convaincre le médecin qu'elle pouvait l'amener à la maison. Le médecin lui a dit, c'est très dangereux. Mais demain matin, si la fièvre n'est pas tombée, ramenez-le ici. C'est d'urgence. Alors, on est parti avec Jonathan. Et puis, devinez ce qu'on a fait. Hein? On a fait... Jacques 5, on va en reparler la semaine prochaine. On l'a oint. On a oint Jonathan. On a prié. Je me souviens d'avoir passé la nuit probablement à genoux, au pied du lit. J'allais mettre ma main sur son front régulièrement. Il était bouillant. Alors, on se lève le lendemain matin. Il était comme... tout mou, là, tout fiévreux. Et puis, finalement, on se résigne à aller à l'hôpital. On s'habille. Et puis, je prends sa température une dernière fois. Tu sais, on sait jamais. Peut-être que Dieu va le guérir. Et non, c'était dans le sang. Là. Je me souviens pas exactement, mais très, très fiévreux. Et puis, au moment de partir, le téléphone sonne. Alors, je vais répondre au téléphone. Et puis, je me souviens pas c'était qui, mais j'avais pas tellement la tête à ça. Fait que je raccroche le téléphone, puis avant de partir, j'ai le réflexe de mettre ma main sur le front de Jonathan. Oups! J'ai Lise, peux-tu regarder, là? Je pense qu'il fait plus de fièvre. Sors le thermomètre. Regarde le thermomètre. Hey, sur la ligne, il y a une ligne rouge, je sais pas trop, là. Normal. Normal. Ça, c'est en quelques minutes, là. Normal. Alors, hein? Wow, je vous dis que la foi en Dieu, ça fonctionne. La foi en Dieu peut faire des miracles. Est-ce que Dieu va faire des miracles dans le genre qu'il faisait dans les évangiles? Ça serait le fun. Demain, dans la presse, le journal de Montréal... L'église, l'oasis traverse la rivière des Prairies en arrière ici à pied. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous? Est-ce que c'est ça qu'on s'attend que Dieu fasse? Hein? Pas sûr. Pas sûr. Donc, je pense qu'il y a une bonne compréhension de ces textes-là qu'on a besoin d'avoir pour pratiquer l'onction qu'on va faire la semaine prochaine. Et c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, je vous dirais que c'est relié avec la nature de Dieu, ce que Dieu est. Le cœur de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? La compassion de Dieu. Dieu ne change pas. Il y a toujours la même compassion. Et on va voir ça dans le ministère de Jésus. Peut-être que vous avez des miracles à raconter, mais on va les garder pour la semaine prochaine, OK? Alors, pensez-y cette semaine. Arrivez avec un miracle que vous pouvez raconter. Quelque chose que le Seigneur a fait dans votre vie. On va se préparer, nous, pour le repas du Seigneur ce matin. Amen.